Bon, ce mouvement s'enracine dans une histoire très très longue du peuple Congo, qui a connu depuis le contact avec les Portugais toute une série de mouvements inspirés plus ou moins directement du christianisme, mais inspirés aussi des pratiques locales de prophétie. Donc c'est plutôt un mouvement politico-religieux. On dit secte, mais je ne pense pas que ce soit une secte. La première manifestation en a été Kimpa Vita, qui est une figure très aimée jusqu'aujourd'hui au Congo. La deuxième qui nous est connue, c'est le prophète Simon Kimbangu, dont l'église existe toujours. Et là, donc, c'est un mouvement qui est à la fois religieux, qui s'inspire du christianisme, mais qui est aussi politique, en ce sens que, il prétend vouloir nettoyer l'espace politique et social pour le bien-être social, moral et politique de ses fidèles, mais aussi au-delà de l'ensemble du peuple Congo et peut-être du peuple congolais. Et les méthodes qui sont employées, disons, ce sont des méthodes finalement assez classiques de mobilisation et d'insurrection populaire. Peut-être qu'il y a aussi l'idée que si le pouvoir ne change pas au Congo, si le partage des ressources n'est pas fait convenablement, dans ce cas, le peuple Congo va décider de se retirer de l'État congolais et de fonder une république autonome ou indépendante.
Alors, Zachary Badingila, alias Nemoanda Semi, en est le chef donc de ce groupe. Que pouvons-nous dire de cet homme? Il a également été un député en République démocratique du Congo.
Oui, c'est un universitaire, c'est un homme de formation universitaire qui a fait des études de sciences, qui donc est entré en politique très tôt et qui, bon, il a navigué entre plusieurs eaux, hein. Il a été proche de Kimbanguiste. À un moment donné, il a voulu se rapprocher du président Kabila puisqu'il lui a proposé une réforme de l'État dans laquelle le président resterait président et lui serait le vice-président ou l'un des vice-présidents. Donc, certains le considèrent comme un illuminé. C'est vrai que certaines de ses prédications sont très enflammées et ressemblent à un déroulé d'utopie. Mais dans son mouvement, il a une assise assez forte. Mais il faut savoir que dans le Bas-Congo, il y a beaucoup d'autres gens qui sont contre lui. L'église Kimbanguiste, par exemple, qui est sortie du Bas-Congo pour couvrir tout le Congo, l'église Kimbanguiste n'est pas du tout d'accord avec ce mouvement qu'il considère comme un mouvement politique, ethnique, ethniciste, peut-être tribaliste, qui est un mal pour le Congo.
Dans une de ses vidéos, hein, publiée sur les réseaux sociaux, Nemoanda Semi parle de remettre, vous le disiez, le Congo entre les mains des Congolais. N'est-ce pas un message un peu xénophobe ou extrémiste?
Bon, dans l'espace du Congo aujourd'hui, c'est vrai que depuis le génocide rwandais et les troubles qu'il y a aux frontières du Congo par rapport au Rwanda, par rapport au Burundi, par rapport à l'Ouganda, il y a une sorte d'obsession de l'invasion du Congo par les Rwandais. Bon, c'est un phénomène très complexe, beaucoup trop complexe pour en parler en trop peu de temps. Il y a en effet une sorte de psychose, voilà, de l'invasion. Donc, on pense que tous les gens qui ressembleraient à des Rwandais, bon, le problème, c'est qu'est-ce que c'est qu'un Rwandais, hein? Tous les gens qui auraient ou la physionomie ou l'accent ou le parler rwandais, en oubliant que les langues traversent les frontières artificielles issues de la colonisation. Donc nous avons des rwandophones. Tous ces gens sont considérés comme des étrangers ou des suppôts de l'étranger, donc ceux qui sont la cause du mal du Congo. On oublie naturellement l'impérialisme international, les grandes firmes internationales, européennes, américaines, chinoises, indiennes, et on jette ça dans un réflexe ethniste et, je dirais, xénophobe.
Alors, pour conclure, on a beaucoup parlé aussi de l'aspect mystico-religieux des noix de palme utilisées par ce mouvement. Pourquoi cette noix de palme?
Oui, bon, c'est l'un des symboles, hein, de ces mouvements. Il y en a beaucoup, ça peut être ça peut être un autre fruit, ça peut être des plumes, etc. Je ne suis pas sûr que ça soit vraiment du mysticisme, c'est une sorte de, comment dire, d'affichage identitaire, parce qu'au Congo, il ne faut pas oublier que les phénomènes religieux sont extrêmement importants, du côté des chrétiens de l'Église catholique, du côté des protestants, du côté des églises évangélistes, donc chacun, en quelque sorte, avec son fanion et son drapeau, et eux, ils ont trouvé celui-là. Mais je pense que dans la symbolique congolaise, traditionnelle ou moderne, ça n'a aucun sens en particulier.
Oui. Alors, ne pensez-vous aussi pas que des chefs religieux en République démocratique du Congo commencent à se présenter comme un contre-pouvoir au régime de Kinshasa?
Bon, il faut voir que ces chefs religieux ne sont pas des opposants au régime actuel, n'est-ce pas? Beaucoup d'entre eux ont reçu de l'argent ou des soutiens ou des aides de l'État. Beaucoup d'entre eux ont participé au premier dialogue, surtout un peu moins au deuxième dialogue, qui a été en quelque sorte totalement confisqué par l'Église catholique. Et donc, face à une opposition qui est une opposition politique qui est inexistante, parce que chaque fois elle se rallie au pouvoir, elle est aussi corrompue que les gens corrompus dans le pouvoir. Face à cela, beaucoup pensent que l'alternative, ce sont les hommes d'église qui parlent de Dieu, qui parlent de la charité, qui parlent de toutes ces séries de choses. À mon avis, à mon humble avis, je pense que l'alternative n'est pas là, parce que chaque fois qu'il y a eu des hommes d'église dans le pouvoir depuis 1996, ils se sont comportés exactement comme la classe politique. Donc l'alternative, s'il y en a une, je pense qu'elle deviendrait d'ailleurs probablement de la société civile ou de la société congolaise tout court.